En direct sur Radio Canu, aujourd'hui vendredi 17 mars, Lilith, Martine et les autres vous emmènent au Québec. Ici, c'est le froid qui saisit, rentre par les trous de nez, durcit les doigts de pied. Mon corps devient étranger. Je le regarde faire ami-ami avec cette hippie en robe de mariée vintage. Montréal, scintillante et sexy, clame du slam, danse le swing, aime les parties à moins 30 degrés. Elle est fatale, bonne en crise, chaude et nue pour sûr sous sa pelisse de reine des neiges assumée. Je n'ai qu'une hâte, regarder le manteau tomber. Je vais être là pour le show, surtout pas rater le striptease de l'année. Entre les briques rouges, il y a de la molasse. Des tracteurs et un accent qui bouge, qui move son as, qui n'a pas peur. L'érable est là, dans toute leur voix. Alia et Angie vivent à Montréal. Elles se sont rencontrées sur Internet et sont tombées en amour très vite. Quelques années plus tard, elles concrétisent leur désir de devenir mère. Parce qu'au Québec, depuis le mois d'août 2010, la procréation médicalement assistée est ouverte non seulement aux couples hétérosexuels infertiles, mais également aux couples de femmes et aux femmes seules. Alia et Angie nous racontent leur parcours pour avoir un enfant ensemble et puis nous écouterons quelques chansons d'outre-Atlantique en grignotant des sablés au sirop d'érable.
Je m'appelle Alia, j'ai 33 ans, je suis française d'origine et je suis arrivée au Québec il y a 13 ans. Je suis enseignante et voilà. Moi, je m'appelle Angie, je suis québécoise, je suis thanatologue et je suis enceinte de 8 mois.
Lilith, Martine et les autres au Québec.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé bébé toutes les deux?
Non.
Moi, je m'en rappelle.
Je sais pas.
Je me rappelle que c'était pas mal dans les débuts. En fait, on s'est rencontrés sur Internet avec Angie. Et dans les débuts, c'est quand même une question qui est venue quand on a commencé à parler de rester un couple à long terme.
Et ouais, ben moi, je parlais toujours bébé, mais et je voilà. Parlais pas bébé nécessairement en couple. Je parlais tout le temps de bébé.
Mais que t'aimais les enfants, tu oui. voulais faire une famille et tout ça. Puis c'est vrai que moi, quand on s'est rencontrés, je voulais pas d'enfant. En tout cas, je pensais pas à vouloir faire un enfant, mais je pensais plus à être une famille d'accueil.
Oui, ouais, peut-être dans nos débuts, ouais, on en a parlé un peu comme ça.
Mais assez vite, tu m'avais dit que tu voulais 10 enfants.
Oui, mais je t'avais dit que c'était pas si grave que ça si j'en avais pas vraiment.
D'ailleurs, pour moi, ça a été une grande marque d'amour quand elle m'a dit qu'elle serait capable de faire sa vie avec moi sans avoir d'enfants.
Je dirais qu'on en parle concrètement, puis que t'embarques, là, que c'est pas juste moi qui fabule dans mon coin. Je pense que c'est peut-être il y a 2 ans, 3 ans.
Ouais,
qu'on disait vraiment, OK, oui, c'est peut-être possible qu'on fasse une famille, nous deux, ensemble, sans dire que moi, j'avais des enfants de mon côté ou que toi, t'avais une famille d'accueil ou qu'on faisait, ouais. Comment avez-vous choisi qui porterait le bébé?
Ah. On a toujours l'air bizarre quand on répond à cette question.
Oui.
En fait, il y a plusieurs raisons qui nous ont poussés à faire ça parce qu'au départ, on avait choisi par logique toute simple que ce serait moi parce que je suis la plus âgée. Et puis finalement, assez vite, ça s'est plus tourné vers Angie qui avait peut-être plus l'envie.
Mais c'était vraiment plus pragmatique. Pragmatique,
oui. C'est pour avoir des vacances ensemble, tout ça.
Oui. Étant donné que nous, on a droit de 52 semaines de congé de maternité pour la mère, dans le fond. Celle qui accouche, celle qui porte. Qui peut être séparée. Donc, moi qui ai juste 2 semaines de vacances par année depuis des années et qu'Alia est professeure, donc elle a 2 mois et plus par année de vacances, ça devenait logique de notre premier enfant, si on voulait l'élever plus à deux, puis de voyager, d'aller voir sa famille en France et tout ça, c'était plus pratique que moi j'ai 50 semaines de vacances cette année, dans le fond. Puis, comme j'ai un emploi stable et que t'as pas de contrat, donc ça aide un petit peu aussi côté monétaire de pouvoir continuer à avoir un salaire qui rentre des deux côtés, là.
Alors, avant votre projet d'enfant, est-ce que vous aviez une idée de la manière dont ça pouvait se passer, les démarches, la procédure au Québec?
Nous, on a connu beaucoup les procédures, parce que ça a beaucoup passé dans les médias quand c'est devenu gratuit pour tout le monde, les inséminations, il y a quelques années. Que ce soit pour couple hétéro, infertile ou femme seule ou couple lesbien, c'était rendu gratuit, en tout cas.
Donc, accessible
pour tout le monde, avec les cliniques étaient connues vu que ça passait dans les médias. Parce que,
il y avait de la publicité, par exemple.
Oui, parce que la personne qui a fait ça est une grande animatrice québécoise qui a revendiqué auprès du gouvernement et tout, pour qui n'est pas lesbienne du tout, là. Qui est l'ex-femme de Pierre-Carl Péladeau, qui fait partie d'un nouveau gouvernement, en tout cas. Elle est connue, mm-hmm. Puis ça l'a été connue parce que...
Ça a été super médiatisé.
Oui, puis c'est comme, à cause des médias, là, ils ont été obligés de se pencher sur la question et ça a été voté, ça a été gagné et c'est accessible pour tous. À pareille date, à peu près l'année passée, au mois de novembre, en 2015... ils ont annulé. Ce n'est plus gratuit pour tous. Il y a une partie qui est devenue payante, mais c'est quand même accessible. Puis maintenant, c'est pratiquement plus gratuit. Ça s'est effacé en 1 an, mais les démarches sont devenues connues. Donc, on a pu voir les cliniques puis s'informer.
On savait que ça existait, mais par contre, exactement comment ça se passait, c'est vraiment quand on est allé à la clinique qu'ils nous ont expliqué, parce que
Au début, on était vraiment, on savait même pas comment, où on allait acheter le sperme, comment on allait le choisir. Donc c'est
pour cette partie-là. Ouais, pour cette partie-là, non, mais je veux dire du côté que les cliniques existent, qu'on y a droit nous en tant que deux femmes ensemble, que c'est ça, il y allait avoir aucun problème. Mm-hmm. Le côté d'accessible. Et que ça se faisait dans un délai très raisonnable. On n'avait pas à attendre 4-5 ans ou des trucs comme ça, comme les adoptions. Ça, on le savait déjà depuis longtemps. Au Québec, c'est connu que c'est facile d'accès.
T'sais, l'homosexualité, c'est plus du tout tabou. Mm. Hein, c'est plus du tout... Peut-être quand tu t'enfonces plus en région, c'est sûr qu'il y aura sûrement toujours un peu d'intolérance, d'homophobie. Mais en tout cas, dans notre quotidien, nous, on le vit pas du tout.
Non, pas du tout. Mais même, c'est surprenant parce que déjà avec les années, on a vu la différence, là, nous. Mais moi, il n'y a jamais personne... Vu notre âge, la plupart des questions, c'est toujours... bon, ben, est-ce que vous voulez vous marier? Allez-vous avoir des enfants? Non, non. Puis, dans les discussions au travail, ben, les questions, les collègues me le posaient à moi aussi. C'était pas juste aux autres filles qui étaient hétéro ou quoi que ce soit. C'est comment, toi, Angie, t'arrives à ta trentaine, les enfants, y pensez-vous tout de suite ou pas?
Et pourtant,
en sachant que j'étais en couple avec Alia. Donc, pour eux, c'est juste normal.
Oui.
T'es dans l'âge, donc t'as la question comme les autres, puis on sera pas surpris si jamais tu décides de le faire. Puis, même chose pour ma famille et tout ça, on a le droit aux mêmes commentaires. Puis, donc, on savait d'emblée qu'on n'allait pas se faire juger, en tout cas pas par nos proches, mais j'imagine que il y a d'autres personnes qui l'ont plus difficile que d'autres, mais nous, c'est quand même assez facile.
Mm-hmm.
On n'a pas eu de mauvais commentaires. Tout le monde était très heureux pour nous.
Puis même à la clinique, je veux dire, c'est très courant. Dans la salle d'attente, on voyait beaucoup de couples de filles. Puis tu te sens pas du tout jugée par les infirmières.
Non, puis les formulaires sont faits pour nous aussi. C'est directement sur le formulaire. Ils mettent MM, FF pour femme, 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 homme. Puis la case, elle est là, elle existe. C'est pas, ben là, on est prêt qu'un vieux formulaire, puis c'est marqué papa puis maman, puis on sait pas quoi faire, là.
Puis même moi, en tant que celle qui porte pas l'enfant, je suis vraiment reconnue comme son parent officiel, quoi, légal.
J'ai oui, sans droit. Adoption. Sans adoption, surtout. Donc, à la naissance, même avant, si on se séparait là, en ce moment, elle pourrait avoir son droit de maternité. Parce que elle pourrait prouver que c'est elle la deuxième mère, étant donné qu'elle fait partie de toutes les démarches qu'on a fait pour avoir la procréation assistée. Donc,
c'est une démarche qui inclut vraiment la deuxième personne.
Mm-hmm.
Ouais. Oui, légalement. Dès le départ.
Légalement, exactement.
Même si on se l'était même dit au départ, tu vois, si on se sépare pendant la procédure, ça change absolument rien. Je resterai quand même la mère de l'enfant.
Il n'y aura pas l'idée de dire « Ah, mais toi, t'es ma vraie mère, puis toi, ben, tu m'as adoptée, mais si j'étais pas ce que tu voulais, tu m'aurais peut-être pas adoptée ou t'aurais pas... » Là, c'est non. On a décidé de te faire ensemble, puis t'étais même pas encore créée que légalement, j'étais ta mère. J'existais, puis les papiers, ce n'est pas un enfant adopté par un deuxième parent. C'est déjà inscrit, puis ça aide beaucoup parce que dans certains pays, sont obligés d'adopter à la naissance le deuxième parent. Mais si moi, je meurs pendant l'accouchement, donc le deuxième parent n'a pas le temps d'adopter, donc ça serait peut-être la personne la plus proche de moi en ce moment, c'est comme ma mère. Donc c'est ma mère qui aurait la garde de l'enfant parce que moi, je suis décédée pendant mon accouchement. Mm. Mais là, légalement, c'est pas ça. De toute façon, elle est déjà la mère. Donc ça fait une grosse différence dans des cas extrêmes comme ça parce que c'est reconnu dès le départ.
Est-ce qu'il y a des procédures spécifiques au Québec par rapport au Canada ou à la France? Au Québec, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas acheter du sperme du Québec parce que c'est considéré la vente de sperme ou d'ovules, par exemple, c'est considéré comme du trafic d'organes.
Bon, on pourrait en avoir du Québec, mais il faudrait avoir un donneur connu. Si on avait un donneur connu, on voudrait ce sperme-là. Là, notre clinique de cet homme-là, la clinique pourrait faire les tests et là, le prendre et tout, mais il faut être sûr qu'il n'y ait aucun échange monétaire parce que sinon, ça fait trafic d'organes.
Mm-hmm. Puis nous, c'est sûr qu'on a eu des propositions d'amis, de connaissances, entre autres des couples homosexuels hommes qui se proposaient. Et puis nous, on a fait le choix de prendre du sperme de l'identité connue, mais pas d'une personne de l'entourage, parce qu'on voulait vraiment que ça reste notre projet de couple à nous, finalement.
J'ai toujours pensé qu'on ne sait jamais comment qu'on peut réagir. C'est facile de dire aujourd'hui, « Ah, ben ça ne sera pas mon enfant, je vous donne juste mon sperme. » Mais qu'à un moment donné, il le voit, ou que même l'enfant, je ne serais pas capable d'y mentir, donc il connaîtrait, puis on dirait, « Bon, ben c'est ton donneur, c'est de lui que tu viens. » Et comment tu peux empêcher un adolescent de 17 ans de cogner à sa porte et dire que c'est lui son père? Ou vice-versa, comment tu peux empêcher un homme de dire, ben, c'est mon fils, je vais faire un test de paternité, puis je pourrais arriver... Là, ça fait trop de débats. Il y en a qui le font, d'avoir une famille, dire, ben, t'as un papa, une maman, mais maman, t'as une belle-mère, maman est en couple avec une autre femme, et papa est en couple avec un autre homme, donc c'est une famille reconstituée dès le départ.
Il y en a même qui font ça dans des duplex, tu sais. Oui. La famille des deux mamans habite à un étage, les deux papas.
Vous avez rencontré des gens comme ça?
Rencontrer nous-mêmes, non, mais entendu parler, oui.
Oui, mais c'est pas le genre de truc qu'on voulait. Puis, je me suis toujours dit, c'est beau dans des belles situations, mais ça peut tellement mal aller, dégénérer.
Puis après, dans les procédures, au Québec, ce qui est spécifique, c'est que tu as le choix de prendre un donneur avec une identité ouverte ou avec une identité pas cachée, mais
fermée. Puis les donneurs sont souvent... comme il y a peu de donneurs québécois parce que c'est pas rémunéré, c'est souvent des donneurs américains. C'est ouais. Ça.
Et puis l'identité, nous, on s'est quand même beaucoup posé la question parce que soit on choisissait quelqu'un avec l'identité fermée en se disant de toute façon c'est nous les parents de l'enfant puis on veut pas que l'enfant soit tenté d'aller vers ce donneur finalement. Et puis ou on choisit l'identité ouverte, puis finalement on s'est dit ça serait peut-être mieux que l'enfant ait accès à ses origines. Puis en fait le fait de lui donner cet accès, ça va peut-être limiter un peu le besoin d'aller chercher ce qu'il a ici, quoi.
Mais faut faire attention parce que donneur ouvert, c'est pas on l'appelle quand on veut, comme on veut. Il est ouvert, mais seulement pour l'enfant et seulement ses 18 ans. Donc nous, les parents, on n'aura jamais le droit de le contacter si l'enfant ne veut pas.
Pour faire toutes ces procédures-là, il a fallu qu'on rencontre une psychologue. Ça fait partie de la procédure. Tu dois faire approuver ton projet par une psychologue. Puis elle, un de ses points vraiment, ce qu'elle disait, c'est que oui, dans la plupart des pays, pour le moment, les gens ont accès juste à des banques à identité fermée, mais
dans
que
ça
va aller.
Dans
la France aussi, ouais. Ça va aller vers les identités ouvertes parce que commence à y avoir des recours collectifs d'enfants nés de qui connaissent pas le donneur, quoi, pour avoir accès finalement à leurs origines.
Et est-ce que vous pouvez peut-être juste me rappeler un peu les étapes par lesquelles vous êtes passé?
Le tout départ, c'était les examens médicaux, en fait. Au début, on a été vraiment étonnés parce qu'il fallait que je les fasse aussi, donc. Même si je portais pas l'enfant, tu sais, tout ce qui est MST et tout ça.
Puis ensuite, moi, de mon côté, j'avais toujours le choix de faire les examens de fertilité ou pas. Parce que comme je sais pas si je suis fertile, ça, c'était un autre choix. Donc, nous, on payait pas les frais médicaux, mais seulement le sperme. Mais donc, à chaque fois que tu prends un sperme, c'est 700 quelques dollars. C'est pour ça qu'elle dit, mais c'est peut-être mieux, de vu que vous payez pas les frais médicaux, d'aller vérifier si vous êtes fertile avant, parce que sinon, c'est 700$ par mois. Ça peut monter vite. Mais on s'est dit, justement, on va essayer dans le naturel, parce que...
Bon, on y croyait.
On y croyait, je pense. On s'est juste dit, non.
C'est puis correct. Encore plus, après, l'étape d'après, c'était une autre décision à prendre. C'est que jusqu'à maintenant, automatiquement, ils donnaient des hormones pour accroître la fertilité. C'est ce qui a provoqué beaucoup de naissances multiples. Et en fait, on a eu la chance d'être suivie par une docteure qui était très, très reconnue dans le milieu, justement, des inséminations. Et puis, elle venait de terminer une recherche qui disait qu'il faut arrêter de donner aux couples lesbiens des hormones.
Quand on couple fertile, non?
Voilà, parce qu'on surfertilise des femmes qui sont sûrement déjà fertiles et elles se retrouvent avec des jumeaux, des triplés, des quadruplés.
Mais ça donne pas plus de chances
de tomber enceinte
plus rapidement. Parce que quand t'ovules, dans le fond, t'as
pas besoin. Étude, elle venait de la terminer, mais elle l'avait pas publiée encore. Donc, comme elle nous a dit, moi, je vous encourage à suivre mon étude. Mais pour le moment, normalement, je devrais encore vous dire, prenez des hormones. Et que nous, on a dit, bon, ben, on va faire pareil, on va prendre une chance.
Bon, pas d'hormones et tout. Fait que ça, c'était la deuxième décision. Donc, quand on a su qu'on était en santé, sans MST, blablabla, et qu'on avait pris ces deux décisions-là, ensuite, là, oui, il nous réfère à la psychologue pour être sûr qu'elle accepte le projet. Là, elle va toujours vérifier si... Au départ, c'est pas long, là, c'est à peu près 1 à 2 heures. Mais ce qu'elle veut voir au départ, c'est qu'on le fait pas l'une pour l'autre. Ben, je veux dire que les deux sont consentantes. Mm-hmm. Tu sais, elle nous parle chacun, est-ce que toi t'en veux des enfants? Est-ce que t'es sûr que... Tu sais, s'il y en a une qui le fait pas pour sauver le couple, par exemple. Mm-hmm. Puis elle demandait un peu les mêmes questions depuis quand vous en parlez. Est-ce que c'est... Il y en a qui sont d'accord et tout ça. Puis ensuite... Là, elle nous parle un peu plus du type de donneur, puis des choses comme ça.
Et donc ça a été l'étape d'après, finalement, ça a été de déterminer quel donneur, quel genre de donneur on voulait. Puis c'est assez particulier, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est vraiment des sites où tu magasines un donneur. Là, c'est comme...
C'est comme un site de rencontre.
C'est exactement la même chose. Par Internet.
Oui, parce que comme c'est des sites américains, il y a 3 grandes banques qui vont sur des sites canadiens. On a toujours le choix du donneur. C'est libre à nous, là, tout le temps.
Ouais. Après, nous, on a affiné par critères. C'est sûr que...
Mais les critères sont... C'est dur, parce que des couleurs de
cheveux... peau, ethnie, couleur de yeux...
Tu sais, à la limite, la couleur de yeux, on s'en fout un peu, mais mm-hmm. Tu sais, on essaie de ratisser les recherches, parce que sinon, c'est beaucoup trop. Mais ils font un max d'argent avec ça. C'est payant. C'est exactement comme des sites de rencontres. T'as la base, genre, les 2-3 petites phrases, l'état de santé parce que c'est essentiel, mais si tu as accès aux photos, souvent ils vont mettre une photo de eux bébés, mais encore mieux, ils vont mettre des photos d'eux adultes, ceux qui ont l'identité ouverte. Ils vont mettre même des lettres, le son de leur voix, ça devient comme un jeu, là, mais faut que tu payes pour avoir accès à cette partie-là, et c'est limité dans le temps. Si tu payes tant, t'en as pour 24 heures. Si tu payes plus, tu l'as pour une semaine. Sinon, si tu payes plus, tu l'as pour un mois. Et on parle de centaines et de centaines de dollars. Donc, nous, on a commencé par vérifier juste avant, sans payer, pour voir juste les premiers profils. Puis après, ben, t'avais vu qu'il y avait un rabais pour 24 heures.
J'ai vu un message gratuit. Comme ça qui clignotait sur la page. Attention, 24 heures!
24 heures de gratuit.
C'est gratuit. Et ben, on a passé 24 heures à chercher notre
donneur. On l'a trouvé en 24 heures. Mais c'était pas une question d'argent, parce qu'au pire, oui, on avait les moyens peut-être de le payer, mais on commençait à trouver ça complètement fou de payer pour notre bébé à ce point-là. OK, le sperme, je comprends. Livrer le sperme, c'est correct.
Mais accéder au site.
Puis à un moment donné, plus t'en as, plus t'as de temps, plus tu te perds, puis plus tu finis par ne jamais trouver, puis plus ça n'a pas de bon sens. Puis aussi de pas se dire, je suis en train de payer pour ça. T'sais, je trouvais que c'était vraiment trop bizarre de passer des cartes de crédit sur des sites internet en passant par PayPal pour se faire payer du sperme, pour choisir un sperme qui va arriver par FedEx, parce que c'est livré par FedEx. Fait comme là, c'est complètement absurde, là. C'est trop bizarre. En plus, qu'ils font des promotions gratuites 24 heures, c'est encore plus bizarre. Que là, on le choisit.
Par contre, il n'y a pas de sperme en spécial, là.
C'est non, c'est ça. mais il y en a des backorders. Tu cliques dessus, t'es contente, tout va bien aller, c'est lui qu'on a choisi, puis là tu cliques dessus, c'est backorder.
Il n'y en a plus en réserve.
C'est ça. Fait que là t'es comme, OK, moi je viens de passer des heures, on avait fini par s'obstiner, on l'avait choisi. Puis là vous me dites qu'il n'y en a plus. Mais enlever sa photo, pourquoi vous le gardez? Mais en tout cas, c'est vraiment comme les sites de rencontres, là. C'est la même chose, tu cliques sur les visages, puis là
t'entends la voix.
Phrase. T'entends la voix.
La voix.
Le pire, ben pas le pire, mais le plus drôle, je veux dire, que j'aurais jamais pensé, c'est les commentaires du staff. Ah, chaque fois qu'il vient donner son sperme, il est super bien habillé. Ah, parfait. C'est le fun. D'autres, c'était... il semble sérieux. Il est très calme et posé lorsqu'il attend dans la salle d'attente. Mais t'es comme... Mais c'est quoi ça, tu sais? Mais joli sourire. Mais ça a été drôle.
On a trouvé vraiment... On l'a choisi, c'est simple, on l'a choisi vraiment sur des critères physiques parce qu'on le trouvait très beau.
Ben non, pas juste ça, mais c'est sûr qu'au début, oui, parce qu'on regarde les photos, on n'a pas le choix, on ne commencera pas à lire tous les profils, c'est beaucoup trop long. Fait que oui, sur le coup, c'était physique. Là,
mais c'est sûr qu'on voulait un donneur de couleur. On voulait aller chercher soit les origines d'Angie chinoise, soit mes origines arabes.
Ben parce qu'on s'est toujours demandé sur quels critères. Puis la plupart des couples hétéros infertiles, c'est facile. Ils vont aller chercher la personne qui ressemble le plus à leur conjoint pour que l'enfant se sente qui ressemble le plus à son papa puis c'est tout ça. Mais nous, tu sais, c'est même si on voudrait qu'il ressemble à Alia, elle le sait, c'est pas son père. Je dirais, elle a pas de lien. Fait là, on s'est vraiment demandé si ça valait la peine d'aller vers là. Puis si on prenait un donneur chinois, ben c'est moi qui le porte, donc il peut sortir vraiment chinois, il ressemblera pas à Alia. Puis si on prend un donneur arabe, ben ça se peut très bien qu'il ne ressorte pas arabe ou quoi que ce soit. Puis on veut peut-être un autre enfant qu'Alia va porter, donc il ne me ressemblera pas après. Puis là, on a beaucoup trop d'origines pour essayer de cibler. Donc, on a pris l'origine qu'on n'avait pas. Fait qu'on est allé vers noir, africain à trois quarts, puis un quart indien.
Un bel homme.
Oui. Ben, on le choisirait comme si... Parce qu'après, on a lu ses lettres, puis sa personnalité aussi. Il n'y a pas juste la photo, là. On a tous regardé, là. Puis c'est son côté santé. Mais on l'a choisi, on s'est dit, c'est comme si... Habituellement, on fait des enfants comment? Ben, avec quelqu'un qu'on a une attirance sexuelle ou... Ben, sexuelle, amoureuse, en tout cas, un intérêt comme ça. On le choisit pas parce qu'on le veut, notre enfant blond aux yeux bleus ou... on choisit pas par rapport à l'enfant, on choisit par rapport à notre attirance. Puis c'est là qu'on s'est dit, ben, nous deux... C'est le seul, vraiment, dans toute la banque de sperme qu'on a dit, ah, ben celui-là, oui, on le trouve beau, oui, la lettre, je le trouve intéressant, oui, la façon qu'il parle. C'est quelqu'un qui, dans la rue, je me serais retournée. Puis, on se disait, ben, si notre enfant nous pose la question, pourquoi vous avez choisi tel donneur? Ben, parce que, justement, c'est comme ça que je trouve que dans la vie, on fait des enfants. C'est quand on a un coup de foudre, un coup de cœur, puis c'est le seul qu'on avait eu les deux en même temps. Ça a été instantané. Je serai pas là demain matin. trouvez-moi une remplaçante. Je devrais finir l'ovulation vers 13h, 13h30, je reviendrai. T'sais.
Témoignage. La PMA au Québec, ça se passe comment?
T'arrives à la clinique et puis là, t'es assez excitée, quoi, parce que, oula, tu sens que ça y est, c'est le grand moment. Et puis, ils disent juste, bon, ben, on va décongeler le sperme, donc vous pouvez aller boire un café. Mais quand on est allé boire un café en attendant que ça décongèle, et là, tu te dis quand même que t'espères qu'ils vont le décongeler assez.
Oui.
C'est ça, ma grande peur.
Ben non, j'avais aussi peur qu'ils se trompent de fiole. Mais dans le fond, j'avais pas peur pour nous, parce que nous, dans le fond, le donneur... On le choisit noir, mais à la limite, il serait blanc, jaune, orange. On s'en foutait un peu, on est très ouvert et tout. Mais moi, j'imaginais qu'on a inversé deux fioles. Donc, moi, j'ai un donneur blanc. Bon, ben, c'est pas grave, mon bébé, il va être blanc. Mais puis, j'imaginais l'autre couple infertile, blanc, qui a un bébé noir. J'ai dit, ça marchera pas, là, ça, on va briser des couples. Puis, la première chose qu'on fait avant de signer, c'est qu'elle nous donne. Parce que les donneurs ont des numéros. Ça marche avec un numéro. Et moi, je me rappelais plus du numéro de mon donneur. Puis là, elle nous montre, elle dit, il faut vous signer pour prouver que c'est vraiment ce donneur-là que vous voulez. Puis je sais pas, c'est quoi mon numéro? Puis Alia s'en rappelait, mais... En tout cas, moi, j'ai encore un doute. Ça se peut que ce soit pas lui. Ils ont peut-être inversé deux fioles. Pour nous, ça nous dérange pas, mais je pense à l'autre couple qui vont faire un saut. Mais c'est pas grave.
Donc finalement, ça a été décongelé. Puis c'était décevant, c'était tout petit. Vraiment une toute petite quantité. Tu te dis, hey, tout ça pour ça.
700 pièces pour une petite affaire de
mal. Et en voyant la quantité, moi, j'étais pas très optimiste. Je me disais, il y en a pas assez, j'ai l'impression. Ça pourra pas se rendre. Mais finalement, et puis ça prend 2 minutes. Hein.
2 secondes.
Tu t'allonges sur la civière, puis hop, écarte les jambes et ça prend 2 secondes. Après, ils te disent de rester couché 10 minutes avec les jambes en l'air. Puis on est reparti continuer. On est reparti au travail, je pense.
Oui, je pense que oui. Moi je suis allée, ouais.
Ne dis pas que toutes les deux, alors, pour ce moment-là.
Tu peux choisir de le faire toi-même, mais tant qu'à faire...
Non, elle ne nous l'a même pas proposé.
Non, mais il y a des gens qui le font...
Qui le demandent, mais...
C'est même qu'ils le font à domicile. Ouais. Tu peux te faire venir le...
Mais je pense pas que ce soit l'idéal, parce que veux pas... Ben oui, ça peut être l'idéal pour l'ambiance et tout, là, parce qu'il y a zéro ambiance là-bas. Là. Mais... eux, ce qu'ils font, c'est quand même, ils vont faire la moitié du chemin. Fait que c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup plus de chances qu'une relation sexuelle normale, hétérosexuelle, parce que elle va mettre un spéculum, donc le chemin est grand ouvert, c'est libre, il n'y a rien qui accroche. C'est comme une seringue avec un bout.
Une pipette.
Un genre de pipette assez longue. Donc la moitié du chemin est fait. Et c'est quand même dans le début où que les spermatozoïdes, ils savent jamais de quel bord aller. T'en parles la moitié qui recule.
Ils viennent découvrir les mecs.
Hein? Oui, c'est ça, ils sont tout perdus.
On les aider.
Ouais, fait que ça aide beaucoup, beaucoup de le faire par un médecin qui va aller le porter au bon endroit, qui, elle, en plus, le voit. Elle a une lumière, elle va regarder vraiment que si tout est dégagé. Et avec les sécrétions qu'elle a voit, elle est sûre que ton test d'ovulation, il est bon. Ça a fait rapidement parce que je tombe enceinte en mai et notre premier coup de téléphone à la clinique, c'était en novembre. Fait que c'est en moins d'un an, j'étais enceinte. Là, dans toutes ces démarches. Fait que c'est quand même vraiment rapide parce que en novembre, quand tu les appelles, t'as pas un rendez-vous en novembre. Puis je me rappelle, ça tombait dans le temps des fêtes. Fait que notre premier vrai rendez-vous qu'on s'est assis à la clinique, c'était en janvier. Fait que moi, je m'attendais pas là, qu'en moins de 6 mois, poup-poup.
Eh oui,
ouais, ben, je suis bien contente. Mais ça a surpris tout le monde aussi. Là. Ouais.
Comment a réagi votre entourage et plus généralement, comment réagissent les gens à qui vous le dites? Ben, ça a été très différent, en tout cas pour moi, au Québec et en France. Parce qu'au Québec, j'en avais quand même parlé à la plupart des personnes que je connaissais. C'est beaucoup plus facile d'en parler aussi de vive voix. Puis les gens que je côtoie ici tout le temps, ils connaissent Angie, ils nous voient aller aussi, ils savent qu'on a acheté une maison, qu'on construit quelque chose de sérieux. Donc ça n'a pas vraiment, du côté de mon entourage au Québec, surpris les gens. Et la plupart étaient même tous très contents, très positifs.
Puis ils te connaissent au quotidien aussi, tu sais.
Ben, le côté français, c'est sûr que ça a été beaucoup plus surprenant. Puis moi, au début, j'ai eu un peu du mal avec cette réaction parce que je la comprenais pas. J'ai même des amis qui ont réagi un peu... tu sais, c'est comme s'ils se sentaient pas heureux pour moi, certaines personnes, parce que pour eux, c'était quasiment impossible que je sois un couple de filles qui ont fait un bébé. Et donc après, les explications, je leur expliquais, puis finalement... Là, je voyais qu'ils étaient contents pour moi, mais je trouvais ça un peu étonnant parce que tu t'attends tout le temps à la grosse réaction quand tu vas dire à quelqu'un « je vais être maman », tu sais. Mais ouais, là, mais... le fait de dire « je vais être maman, mais je suis pas enceinte »,
c'est ça.
Ben, ça faisait tout le temps un genre de décalage, puis moi, je voulais juste que les gens me prennent dans leurs bras pas, et puis qu'ils me disent félicitations comme
mais
tout
le monde. Mais que t'avais pas ici, par
contre. Ici, c'est comme si on était un couple hétéro,
oui,
y a pas de différence.
Oui, c'est comme si c'était le pas.
Ouais. Alors qu'en France, j'ai senti un peu le décalage, mais je pense que c'est vraiment un manque de... Comme il n'y a pas d'accès à ça, finalement, en France, ben c'est sûr que les gens, il y a toujours la surprise, surprise de comment c'est possible. Mm-hmm. Ouais. Et j'ai compris, mais sur le coup, des fois, ça m'a un peu déçue. J'aurais voulu que les gens sautent de joie, puis c'est tout.
T'es bouche de champagne, merde.
Là, je suis pas enceinte, justement.
Ouais, c'est ça, c'est la première fois que tu peux devenir mère, puis pouvoir boire, puis fumer, si tu veux. Ben moi, ma famille était trop contente. Ça s'est mis à pleurer, ma mère et tout. Mon père, qui est chinois, lui, qui est plus pragmatique, et qui était très... parce qu'il me trouvait très, très mince, là. ben lui, sa première réflexe... Et ça, dans le fond, ça m'a vraiment... Ça m'a un peu fait chier, mais ça m'a vraiment touchée parce qu'il a pensé à Lia tout de suite. Au lieu de dire « Ah, félicitations », il a fait « Mais pourquoi c'est pas elle qui le porte ?»
Alors, ça m'a un peu insultée, ça veut dire « C'est moi la grande. »
Non, non, pas, non, il pense plus à santé parce que je suis trop petite. Mais ça l'a fait vraiment, tu sais, profitez-en. Vous êtes deux mères, vous avez deux utérus. OK, pour lui, il n'y en a plus de différence. T'sais. Ça va être son petit enfant pareil, que ce soit moi ou elle, tu sais. Qu'il pense. Puis sinon, toutes les amies, ben tous nos amis savaient déjà que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Fait que c'est eux-mêmes qui allaient vers nous. Là. C'est quand vous allez le faire. Puis au travail, j'ai des gens de entre 20 ans et 80 ans. Il n'y en a pas un que sourcillé. C'est juste normal. Et même au party de Noël, j'avais... Alia est venue. Elle était invitée. Puis la mère de mes patrons, qui a 80 ans, est allée féliciter Alia, puis elle a dit « Quel beau projet, je suis fière de vous. » Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais à moi, oui, parce qu'en plus, je suis son employée et c'est moi qui est maman. Je me dis « Bon, ben qui porte, elle va me féliciter par politesse, mais qu'elle prenne le temps d'aller voir Alia pour la féliciter ouais, du projet. Elle a 80 ans. »
Elle disait vraiment qu'elle trouvait ça beau de voir que maintenant, c'était possible.
C'est ça.
Qu'il n'y ait plus vraiment de limite. S'il y a de l'amour, ben, tu as le droit d'avoir des enfants. Mmh.
On est encore surpris de voir que justement, c'est si... facile. Les voisins qu'on connaît à peine, ils sont contents pour nous.
Mais au niveau administratif, en tout cas, au Québec, depuis plusieurs années, c'est complètement maintenant, t'as plus les cases mari-femme, tu sais, ça n'existe plus.
Ou père-mère, père-mère, ça n'existe plus. C'est deux cases.
C'est parents, parents numéro un, parents numéro deux.
Non, mais ce qu'ils vont inscrire, ouais, maintenant aussi, ils ont marqué une case, père-mère, une case, père-mère. Donc, mm-hmm. T'écris ton nom, tu coches, t'es une mère. Puis l'autre écrit son nom, tu coches encore mère, c'est tout.
Donc vraiment, au niveau administratif, t'as plus du tout de... Mmh.
Mais les gens s'excusent. Quand j'ai appelé, là, il y a pas longtemps, pour le truc parental, là, pour le congé parental, pour se faire payer, j'avais des questions, puis là, je parlais. Et là, j'ai dit, oui, mais pour le congé, l'autre congé, puis elle dit, ah, ben pour votre mari, tatata, puis j'ai dit, ah non, pour ma conjointe. Elle dit, oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous poser la question. Je dis, non, c'est correct. Non, non, mais excusez-moi vraiment. Donc, pour la deuxième mère, il va avoir un congé par... Puis là, elle était toute mal. Puis j'étais comme, ben non, mais c'est correct. Elle pouvait pas savoir, mais c'est rendu que c'est
cool. Tu sais, on pourra pas parler encore d'égalité à 100% là, avec les couples hétéros, ça c'est certain, mais on s'en rapproche quand même. Tu vois, il y a quelques années, dans le début de notre relation, on s'était fait dire dans la rue, moi c'est la seule fois, je pense, à Montréal que je me suis fait insulter, on s'est fait dire qu'à cause de nous, la population allait s'éteindre parce que nous, on permettait pas à la population de se renouveler. Bah, aujourd'hui, on peut lui dire que regarde, finalement... On va la renouveler, nous, la population.
Mais même, ils ont tout...
C'est avec des petites faces bien drôles.
Tiens, tu peux lire la dernière question.
Non, tu peux.
Merci. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière d'expliquer à votre enfant ses origines? Moi, je pense qu'en fait, on lui expliquerait un peu de la même manière qu'on vient de t'expliquer. tu sais, il n'y a rien à cacher. Je veux dire, ça,
ben, on serait pas capable de le cacher. C'est notre avantage, par exemple. Les couples hétéros qui font affaire avec des banques de sperme, faut, à un moment donné, il faut lui annoncer. Il faut dire « Ah, tu es adopté. Ah, tu viens d'une banque de sperme, c'est pas ton papa biologique. » Nous, c'est elle qui va choisir de poser la question, si elle a des questions. Fait qu'on n'a pas de faire de grandes annonces. Fait qu'on n'a pas à se demander à quel âge faut la faire, qu'est-ce qu'il faut faire.
Puis, ils parlent beaucoup maintenant d'homoparentalité aussi dans les écoles.
Dans les livres, on a déjà des petits livres, on a déjà des petits trucs comme ça.
Donc, dans le fond, ça va, on va aller à son rythme à elle, mais c'est sûr qu'on lui cachera rien. Puis, dès qu'il y aura des questions, ben, on va y répondre par la vérité. T'as juste à être là, puis tu donnes ton amour. Puis oui, si des fois, dans sa crise d'adolescence, elle me dit « t'es pas ma mère », ben, elle aura le droit de me le dire aussi, puis ce sera à moi d'aller lui remontrer que oui, je suis sa mère, là, qu'elle le veuille ou non.
Oui, puis de toute façon, si c'est pas ça, puis qu'elle est en crise d'adolescence, elle va te dire d'autres choses de blessant, elle va trouver d'autres choses, mais tu serais sa mère. Ma mère, c'était ma mère, puis je l'ai blessée, moi, l'adolescence, je veux dire, on n'a pas besoin de ça.
Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pas envie d'être sa mère aussi.
Dans le fond, ça doit être tant mieux. Non, c'est ça, mais il y a ce petit challenge-là, là, de préadolescence, adolescent, qui cherche, puis qui veut savoir, ou qui est le contraire. Pour ça qu'on a pris le donneur ouvert aussi, s'il y a vraiment des questionnements fondamentaux. Puis qu'elle a besoin de le savoir, ben juste au moins dire ben pourquoi que lui a voulu donner de son sperme. Parce que veut pas, il l'a pas donné juste à nous, là. Elle va avoir plein de fausses demi-sœurs, demi-frères partout dans le monde. Et ça aussi, c'est une autre réalité que les autres enfants ont pas. Puis d'avoir des faux frères, des faux sœurs un peu partout. Puis si elle veut se demander pourquoi lui fait ça, oui, on dit tout le temps que c'est un peu pour l'argent, mais il pourrait faire d'autres choses pour faire de l'argent aussi. C'est une décision.
Mais il a écrit sa belle lettre d'ailleurs, qui est une lettre qui s'adresse aussi à l'enfant et qui explique pourquoi lui il trouve ça important de donner son sperme.
Ouais. Puis la phrase qui m'a le plus touchée, c'est « Je vais être là pour toi si tu as des questions. Par contre, je suis pas ton père. » Et oublie jamais que tes parents sont tes parents.
Toujours sur Radio Canu, vous venez d'entendre un enregistrement qui a été réalisé le 4 janvier de cette année, au chaud sur un canapé, alors que dehors la tempête de neige soufflait. Et 22 jours après cette interview, la petite Maxence naissait. Et je vous rassure, aucune fiole n'a été inversée. J'en profite pour saluer Alia et Angie qui, j'espère, nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Et pendant qu'on écoutait cette émission dans les studios, on a commencé à parler de la PMA justement, parce que ça fait quand même débat en France. Alors, peut-être je voudrais juste redire un petit point par rapport au Québec, pour compléter ce qu'elles ont dit. Alors, la procréation médicalement assistée regroupe un éventail de techniques, dont la fécondation in vitro, donc qui est proposée pour des couples qui ont des problèmes de fertilité, et ou l'insémination artificielle, donc ce dont elles ont parlé, c'est-à-dire pour des couples qui n'ont pas de problème d'infertilité, mais qui ont recours à du sperme extérieur, on pourrait dire. Et alors au Québec, c'est autorisé, enfin oui, la PMA est autorisée aux couples, je l'ai dit hein, dans l'introduction, aussi de femmes ou aux femmes seules, ce qui n'est pas le cas en France. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au Québec ? Ah oui, j'ai trouvé une citation du ministre de la Santé et des Services Sociaux, Yves Bolduc, à l'époque, donc en 2010, quand ça a été autorisé. Il a dit « On va permettre à des parents, à des couples ou à des personnes qui ne peuvent pas naturellement avoir des enfants, d'avoir un bébé avec de l'aide médicale. » Et il a ajouté « C'est bon pour le Québec parce que ça augmente la natalité. C'est bon pour les soins de santé parce que ça va diminuer les coûts au niveau de la néonatalogie et c'est bon pour les parents. Mais dans sa citation, on peut voir quand même que c'est pas simplement parce que le Québec est plus ouvert vis-à-vis de l'homosexualité qu'ils ont pris cette décision, mais aussi ça relève aussi d'une politique nataliste, donc qui existe depuis longtemps quand même au Québec, hein, faire des enfants pour garder un nombre de francophones par rapport aux anglophones. Donc c'est une politique qui est forte au Québec, hein, qui est au début du XXe siècle. Hein. Par exemple, c'était lié aussi avec la religion catholique. Donc les prêtres incitaient les femmes là, à faire plein d'enfants. Et vraiment, c'est connu, hein, au Québec, les femmes avaient en moyenne des 8-10 enfants, parfois. Donc quand elles accouchaient, le prêtre du village allait les voir et leur disait « Bon, c'est bien, vous avez accouché, pensez au deuxième. » Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est important à savoir, parce que c'est des politiques, quoi. C'est des choix politiques par rapport à ça. Et en France, je ne sais pas si tu as un peu plus d'informations.
Je peux peut-être préciser deux, trois choses,
ouais.
Parce que donc, la PMA elle est effectivement autorisée en France, mais elle est assez réglementée. Donc pour préciser, elle est ouverte que aux couples hétérosexuels.
La fécondation in vitro.
La PMA, en fait, du coup, toutes les techniques de PMA et les techniques de PMA, donc que ce soit la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle, elle va dépendre des problèmes de fertilité ou pas, et de qui a des problèmes de fertilité dans le couple. Et du coup, c'est que pour les couples hétérosexuels. Il y a un âge, enfin, il faut être en âge de progrès. Alors, je ne sais plus l'âge limite, tu l'as, c'est 40 et quelques années.
Ouais,
40, pour la femme,
43 ans pour la femme.
Ouais,
après, c'est plus possible.
Et du coup, il y a deux raisons. Donc, c'est un problème de fertilité d'un des deux membres du couple. Et pour ça, alors, toi, tu disais, c'est 2 ans. Il faut avoir arrêté la contraception depuis 2 ans et essayer d'avoir un enfant pour pouvoir rentrer dans ce parcours PMA et avoir un
bilan. Et être remboursé par la sécurité sociale aussi.
Et être remboursé, c'est ça.
Et donc, oui, il faut passer par un bilan d'infertilité.
C'est ça. Et sinon, l'autre raison d'accéder à un parcours PMA, c'est s'il y a... possibilité d'une transmission d'une maladie grave génétique, pareil, de l'un des deux parents à l'enfant. C'est
exactement
ça. Et pour les remboursements de la sécurité sociale, c'est pour 6 inséminations artificielles, avec ou sans donneur. Parce qu'on peut faire... En fait, il y a aussi des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais qui n'ont pas spécialement des problèmes de fertilité avérés.
Oui, au niveau des spermatozoïdes, des ovules. C'est juste le cheminement.
C'est juste que ça ne marche pas, en fait.
Ouais,
et du coup, exactement. Ils ont recours à des inséminations artificielles, mais avec le sperme du mec et avec l'ovule de la fille. En général, la fille, elle s'injecte des hormones pour booster un peu son ovulation, tout ça. Et dans le sperme du mec, souvent ils sélectionnent des spermatozoïdes qui seraient, c'est des nouvelles techniques là, je sais plus comment ça s'appelle, ils sélectionnent et ils inséminent que les spermatozoïdes qui sont un peu plus en forme que les autres, quoi, apparemment.
Oui, c'est ça.
Mais il peut aussi y avoir insémination artificielle avec donneur, parce que s'il y en a un des deux qui est infertile, on remplace par un don, du coup, ou le sperme ou l'ovule de la femme. Et ensuite, il y a 4 FIV remboursées par la sécurité sociale. Du coup, la FIV, c'est-à-dire qu'on fait l'insémination, enfin, on fait la rencontre spermatozoïde-ovule en dehors, et après, on insémine dans la femme, mais ça a déjà été fécondé, quoi.
Oui, exactement. Et j'ai même entendu parler du don d'embryon. Ça, c'est assez incroyable. Ce don est réservé à ceux qui présentent une double infertilité ou sont porteurs d'une maladie grave. Et voilà, et donc don d'embryon,
c'est
le futur un peu.
Ça se passe, c'est comme les FIV en fait. On fait le même principe qu'une FIV, on fait féconder un spermatozoïde, enfin les spermatozoïdes et l'ovule, sauf qu'on fait développer jusqu'à ce que ça soit un embryon en dehors de l'utérus de la femme, et on l'implante une fois que c'est du coup que c'est déjà un embryon.
Exactement. Voilà. Mais bon, en tout cas en France, c'est pas encore, la PMA n'est pas encore ouverte aux couples homosexuels ou aux femmes
seules. Aux femmes seules, en fait. Tu peux même pas y aller en
France. Ah oui, et ce que j'avais noté aussi, je sais pas si... Non, je crois que tu n'as pas dit tout à l'heure, c'est les couples hétérosexuels, paxés, mariés.
Ou en concubinage.
Ou en, c'est ça. Non, je sais pas, moi j'ai vu pas que c'est marié. Ah oui, ou en concubinage. Bon, faut quand même prouver que tu as une vie commune avec cette personne-là. Donc c'est pas non plus n'importe quoi.
Oui, oui, tu peux pas y aller avec n'importe qui.
Une petite bague en plastoc de prise unique.
Ça marche pas.
Ça marche pas.
Et du coup, il y a la plupart des lesbiennes qui font des enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup de lesbiennes qui font des enfants en France, quand même.
Oui.
Bah, elles vont en Espagne, elles vont en Belgique. Ouais. Ou alors, elles se débrouillent avec les...
Ou elles se débrouillent avec un copain, donneur connu, quoi.
Oui.
Mais du coup, ouais, c'est quand même bien hypocrite, la politique du gouvernement, de ne pas vouloir autoriser, parce que de toute façon, ça se fait, l'Espagne, c'est pas si loin.
Ouais. Puis quand on entend des témoignages comme ça... Quand même.
Et ce qui se fait aussi, du coup, alors on en parlait tout à l'heure, c'est que sur les couples de lesbiennes qui vont faire des PMA en Belgique ou en Espagne ou autre, maintenant, du coup, elles, en général, elles adoptent l'enfant. Avec le mariage homosexuel, maintenant, tu peux adopter l'enfant de ton conjoint. Du coup, la femme qui a porté l'enfant via la PMA en Belgique, ça veut dire que sa compagne peut adopter
à la naissance
son enfant.
C'est ce qu'elle explique, justement. C'est que
ça se fait pas comme ça, alors.
Dans leur parcours, ce qui est mieux, c'est que ça se fait avant même que l'enfant soit né, en fait. Ouais. Donc, elle est reconnue. Donc, s'il se passe le moindre truc, même si elle se sépare, c'est ce qu'elle raconte. Alia sera quand même la mère de cet enfant.
Ouais, c'est ça.
Donc il y a vraiment une reconnaissance. Et ça, je pense que c'est important même psychologiquement pour les parents.
Mm. Puis même pour l'enfant.
Et pour l'enfant, ouais. Parce qu'il y a toute cette démarche-là avant la naissance. On va s'écouter une autre petite musique du Canada. Je vous en parlerai après la musique. Ça change de style, hein.
On some real shit. Tu fais les poches au mami, nigga, nigga, deep shit. Laisse-nous parler, on a des plans, tu comprendras jamais. T'es encore décevant dans tes punchlines si tu l'as fermé. Tu t'es fané au fil des années, faut pas me comparer. Tous ceux qui veulent nous encercler, on va les contrecarrer. T'as l'air effrayé, ton disque est encore rayé. Pourquoi les plus mal placés sont les premiers à conseiller? Quand je serai au top, les hypocrites seront mes amis désormais. C'est toujours les mêmes qui parlent, mais n'étaient pas là quand je ramais. Je finirai sans cœur, comme ceux qui gouvernent. On va prendre la place et laisser vos drapeaux. Je déballe que des vérités, un monde sans real shit. Tu fais semblant de supporter ma nigga deep shit. Je vais t'oublier, au fait, moi je suis la petite de personne. Rapatriez vos rappeurs, je crois que je déménage dans l'hexagone. Avec que dalle, on fait plus, t'as l'impression que je suis signé. Vous gérez pas, même avec du bif, ton projet fait pitié. Ronda Rousse est sur vous, 14 secondes, je vous chécoue. Je mets mon bif, Yawalou, gros, tu veux rentrer dans quel coup? J'ai blessé le game, je suis dans les faits divers. J'incarne le soleil du bled dans le froid de l'hiver. Une vision colossale, des bonhommes dans la salle. Que pour ouvrir le bal, joue autant de zéro chloréal. D'où je viens, la neige tombe toute l'année. Pour toi, y'en a toujours eu sous ton nez. Pas choix de te faire pistonner. T'as pas de talent et tu penses cartonner. Esprit du tiécard, on s'est partagé. Je reconnais les faux culs et les vrais chez les deux partagés. Ah, paraît qu'ici les murs ont des oreilles. Alors silence, on fait de l'oseille. Joue au moins 7 chiffres dans mon compte en banque. Quand je vais sortir de l'anonymat, ouais, j'aurai des comptes à rendre. Ouais, je suis déter, plus de billets verts. Je suis pas là pour plaire, les premiers à kiffer seront mes adversaires. Tu veux la maille, les bitch style, je te laisse tout. Je vise le sky, le vrai palatis, bye bye. Tu veux la maille, les bitch style, je te laisse tout. Je vise le sky, ouais, ouais, à ce qui paraît, tu veux la maille, les bitch style, je te laisse tout. Je vise le sky, le vrai palatis, bye bye. Tu veux la maille, les bitch style, je te laisse tout. Je vise le sky,
sky,
hein.
Vous venez d'entendre Sarah May, qui est d'origine sénégalaise et qui a vécu dans plusieurs pays d'Afrique, et aujourd'hui, elle habite au Canada. Et j'ai lu une petite interview. À la question « Est-ce difficile en tant que femme de s'imposer dans le milieu hip-hop ?» Elle répond « Le succès est une route ardue, qu'on soit un homme ou une femme. Je fais ce que j'ai à faire et je ne me remets jamais en doute à cause de mon genre. Par contre, j'essaye toujours de me surpasser dans mon écriture, dans mon flow. Je vois les autres artistes comme ma concurrence, peu importe qu'ils soient hommes ou femmes. » Voilà. Et ces clips sont assez cool aussi. Et une autre artiste que j'ai choisie pour vous et qui vient spécialement de Montréal, c'est Random Recipe. Et la chanson s'appelle Monsters and Words. C'est un groupe canadien qui a été fondé en 2007. Deux meufs, deux gars, qui ont fait leur première performance publique spontanée dans des parcs, des taxis ou dans le métro de Montréal. Et plus tard, ils ont fait des petits shows dans les restos à poutine et les pizzerias. Voilà, vous allez voir, les chanteuses ont le débit sauvage et salé comme on aime.
My girl said we had months in hate. Some were hitting close, some pretend to be dead. Gathering this, always hunted them when you can. Yeah, I'm screaming, I'm taking over your head. Some were born deep, deep years ago. And all you had were gaga, goo-goo fingers and toes. And some grew up with you, dug a place in your soul. Didn't admit that some months, so you don't want to let go. 50 months has always had a bottle in hand. Gotta buy a bottle, bond, try as hard as you can. Gotta do your DNA, what you can do to forget. Gotta buy a bottle, chug it down, give no place to regret.
We gonna fool monsters.
Got my bells, my game is over. It's when you witness, I saw a princess. She ain't mine, but damn, I just don't mind. You see my greedy monster? She gonna take a level. Cookie monster, he's a trick-or-treater. Ain't by the hunger, past the bread and butter. It's like my potion for emotion. Need a box, solo down, cause I'm stuck with my crown. I got a bunch in a can.
Voilà, l'émission du Québec est déjà finie. Merci beaucoup à Alia et Angie qui ont pris le temps de nous expliquer tout ça et qui nous ont laissé rentrer un peu dans leur intimité.
Et si vous voulez avoir plus d'infos sur la PMA, sur le site Radio Rageuse, qui est donc la plateforme où vous pouvez télécharger les émissions féministes de France et de Navarre. Il y a une émission qui s'appelle PMA, oui, 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 on en parle, que j'avais fait il y a 2 ans avec une collègue de Dégenré. Et bon, ça fait bien le tour dans tous les détails de la question. Et il y a même un sketch qui est drôle.
Oui.
Qu'on avait fait là-dessus.
Eh bien, merci beaucoup, à dans 2 semaines. Et on vous laisse avec Michèle Richard, une chanteuse qui a eu son petit succès dans les années 60, québécoise aussi.
Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre. Je sais que je ne te dois rien. Je sais ce que tu diras et ce que tu feras. Quand je voudrais m'en aller, tu ne peux m'en empêcher. Je suis libre, n'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre, n'essaie pas de savoir où je vais.